Il est midi 20 et vous écoutez Café Campus, on est en direct sur le 88.1 et à présent on retrouve Noan qui est enfin arrivé en studio. Salut Noan.
Salut Mélissa, salut à tous.
Alors toi, les jeudis, tu nous parles donc d'actualité, souvent internationale, et aujourd'hui tu as décidé d'aborder notamment trois sujets et on démarre tout de suite avec la situation en Iran.
Exactement, alors vous avez parlé il y a quelques temps de la situation critique en Iran, donc ça a évolué depuis. Depuis le mois d'octobre, les manifestations n'ont pas cessé et la révolte ne faiblit pas. En décembre, le procureur de la République islamique avait annoncé l'abolition de la police des mœurs, qui était notamment accusée d'avoir arrêté puis assassiné Mahsa Amini parce qu'elle ne portait pas correctement son voile. Si cela semblait à l'époque une victoire pour les femmes iraniennes, la réalité en fait est bien différente. Les manifestations se poursuivent et la mobilisation reste puissante même après 3 mois de révolte. La population souhaite un véritable changement politique, moins strict, plus démocratique et ouvert sur le monde. Les Iraniens n'ont rien à perdre, la mort ne leur fait plus peur. Ils ont tous conscience de l'importance de s'opposer au pouvoir pour acquérir plus de libertés individuelles. Des figures connues soutiennent aussi ce mouvement, des rappeurs, des footballeurs, des boxeurs, des acteurs. Elles sont bien souvent arrêtées, jugées et parfois battues à mort, assassinées ou même pendues. L'Iran bénéficie aussi d'un soutien important de la communauté internationale. La répression du pouvoir en place semble sans scrupule, mais la motivation des Iraniens est plus que jamais importante. Les crimes se multiplient, mais jusqu'à quand ?
Et en ce moment, on retrouve de nombreuses tensions au Brésil.
Je vous avais parlé aussi en novembre de l'élection de Lula à la présidence du Brésil. Le nouveau président, déjà élu entre 2003 et 2010, s'était alors réjoui le soir de sa victoire en affirmant « Un autre Brésil est possible parce que nous avons commencé à le construire ». Pourtant, j'avais conclu la chronique en précisant que le bolsonarisme, donc l'idéologie du président sortant Jair Bolsonaro, allait perdurer, les résultats du scrutin étant très proches. Alors, dimanche 8 janvier, plus de 3000 manifestants violents ont pris d'assaut le Congrès brésilien, le palais présidentiel et la Cour suprême. Ces Brésiliens contestent l'arrivée au pouvoir de Lula. Ils scandent « Nous, les patriotes, avons été volés dans les urnes par Lula. Nous demandons aux forces armées de prendre le pouvoir et de faire un nettoyage général ». Les dégâts ont été importants, le bâtiment abritait aussi des œuvres d'art très cotées. Cet épisode lourd de conséquences ressemble fortement à la prise du Capitole aux États-Unis suite à la défaite de Donald Trump, lui aussi de droite conservatrice, en 2021. Bolsonaro, qui vit désormais en Floride aux États-Unis, récuse toute implication. Les forces de police ont réussi à évacuer les manifestants rapidement, mais la question sécuritaire a vite été soulevée. Le gouverneur de Brasilia, soutien bolsonariste, a été suspendu de ses fonctions pendant 90 jours, puisqu'il, je cite, « aurait aidé à l'invasion des bâtiments ». Selon l'actuel président, la porte du palais a été ouverte pour que les gens puissent entrer car aucune porte n'a été cassée. Au total, ce sont plus de 2000 personnes qui ont été interpellées et près de 1200 qui sont maintenant en prison. Un mandat qui s'annonce donc déjà vif et une démocratie brésilienne, elle aussi, en danger.
Et on termine avec la COP28.
En décembre 2023 se tiendra la COP28, cette réunion mondiale organisée chaque année en faveur de la défense de l'environnement. Jeudi dernier a été nommé à l'organisation de cette dernière le PDG de la plus grande compagnie pétrolière des Émirats Arabes Unis. Ça semble être une blague, mais pas du tout. Un exploitant de pétrole dont les conséquences sont les plus néfastes pour la planète qui est chargé d'organiser donc une conférence pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Logiquement, les militants écologistes critiquent cette nomination à l'image de Vanessa Nakate qui affirme « Nous ne pouvons pas avoir une autre COP où les intérêts des combustibles fossiles sont autorisés à sacrifier notre avenir pour gagner encore quelques années de profit ». Sauf que ce PDG, aussi ministre de l'industrie des Émirats, a énormément investi dans les énergies renouvelables. La subtilité consiste donc dans le fait qu'il, selon lui, utilise le pétrole comme énergie provisoire avant que la technologie lui permette de se concentrer sur le tout renouvelable. D'autres pays émettant beaucoup de gaz à effet de serre ont déjà aussi organisé des sommets internationaux comme l'Égypte ou le Qatar avec la Coupe du Monde. L'enjeu pour eux, on l'a vu lors de donc, la Coupe du Monde, c'est de projeter les caméras du monde entier sur leur pays et donc d'accroître leur tourisme et leur crédibilité internationale. Le plus grand paradoxe résulte dans le fait que le financement d'une COP est lourd et que peu de pays sont finalement prêts à organiser ces grandes réunions. Un coût financier important donc, dont ces États peuvent se le permettre, grâce en partie aux bénéfices du pétrole, ressource qui est partie prenante des causes de ce sommet. Cette COP28 est comme toujours très attendue pour préserver l'environnement et alerter une fois de plus l'opinion publique, qui semble toutefois plus déterminée que ses dirigeants à faire évoluer des politiques dévastatrices pour la Terre que pour des intérêts financiers.
Campus Bordeaux.
Bordeaux, Chaouyé.
Et un grand merci à toi, Noan, pour ce retour sur l'actualité. Pas toujours très joyeuse, mais en tout cas, elle est scalée. On va poursuivre ce Café Campus en musique. Tout de suite, c'est un titre de John Ducasse et Heartbreak.